I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant. On s'en doutait, on le redoutait même. Max Verstappen a remporté le Grand Prix de Bahreïn en écrasant la première course de la saison. Et pendant ce temps, comme dirait un ancien président, la maison brûle chez Red Bull. On va évoquer aujourd'hui la situation de l'équipe autrichienne en plein paradoxe, sans doute plus dominatrice que jamais dans l'histoire de la Formule 1, mais au bord de l'implosion, Stéphane. Il y a beaucoup de choses à dire après ce premier Grand Prix.
Complètement, les pilotes ont été gênés par le vent sur le circuit de Sakhir et il y a eu des turbulences aussi dans le garage Red Bull, on va voir ça.
À l'autre bout du spectre, on va parler aussi, alors là je ne sais pas si on peut parler de turbulence ou de tempête avec Alpine, on l'a appris quelques minutes avant de débuter l'enregistrement de ce podcast, mais il y a une nouvelle restructuration du côté de chez Alpine avec ce qu'on pressentait, le départ de Matt Harman, notamment le directeur technique.
Une nouvelle restructuration.
C'est ça, exactement. Et puis on reviendra enfin sur la manche d'ouverture du championnat du monde d'endurance au Qatar, sur le triplé Porsche, sur la discrétion des Ferrari et des Toyota. On évoquera tous ces éléments à retenir après cette première étape du WEC, le World Endurance Championship, le championnat du monde d'endurance. Ce podcast, il est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute les fous du volant, deuxième opus de la saison 2024 avec l'équipe Red Bull, dominatrice plus que jamais peut-être, mais au bord de l'implosion. C'est une situation assez paradoxale, totalement incroyable. La firme autrichienne qui a réalisé le doublé, Max Verstappen, vainqueur de ce Grand Prix devant Sergio Perez, sans véritablement avoir été menacé.
À part en qualification, quand même, j'ai retenu une petite phrase de Max Verstappen qui a dit c'est bien, on a tiré le maximum de la voiture et ça a été un peu tendu pour lui en qualif. Et il a dit que cette saison, ça pourrait l'être à nouveau et qu'il ne serait pas systématiquement en pole position, loin de là. Donc, bon, on a quelques espoirs, mais c'est vrai que le scénario de la course nous a douchés.
Oui, douchés. Couché aussi pour certains qui sont peut-être endormis devant ce Grand Prix qui était quand même assez...
Il y a eu un peu d'action quand même.
Assez soporifique, en tout cas c'est ce que j'ai trouvé personnellement. Ça veut dire évidemment que nouvelle victoire, nouveau doublé pour Red Bull qui va se retrouver évidemment en tête au classement des constructeurs. On va peut-être attaquer tout de suite par les chiffres, les statistiques de Max Verstappen qui commence à prendre des allures assez incroyables.
Alors, tu as parlé de Red Bull. Red Bull aussi qui prend une place grandissante dans les statistiques de l'histoire même de la Formule 1 puisque c'est dorénavant la quatrième écurie la plus victorieuse depuis 1950. Ferrari est toujours en tête avec 243 victoires devant McLaren 183, Mercedes 125 et donc apparaît en quatrième position, Red Bull, qui a rejoint l'écurie Williams avec 114 succès. Pour Max Verstappen, on le disait, ça paraissait facile, on a eu le sentiment d'être écœuré. C'est son cinquième grand chelem en carrière. Moi, j'aurais pensé qu'il en avait deux ou trois fois plus. Un grand chelem, c'est pole position, victoire, grand prix mené de bout en bout et meilleur tour en course. C'est son cinquième, simplement. Ce qu'on peut noter, donc c'est pas si facile que ça à obtenir malgré tous ses succès. Et puis ce grand chelem le place en troisième position dorénavant derrière Jim Clark qui en a 8 et Hamilton 6. Là aussi il devient extrêmement menaçant pour les plus grandes figures de l'histoire de la Formule 1. C'est juste incroyable.
Et il est à égalité avec des noms qui donnent quand même
Alberto
le vertige.
Ascari, Michael Schumacher, voilà, donc presque tout est dit.
Et alors, en parallèle à cette réussite sportive qui est assourdissante, clairement, eh bien, il y a cette affaire, hein, l'affaire qu'on appelle Christian Horner désormais, problème de comportement inadapté, je reprends le terme, entre Christian Horner, le patron de cette équipe Red Bull, et une des employées de l'équipe. Alors, on ne va pas rentrer dans la nature même de ces échanges.
Je pense que vous avez des tabloïds pour ça, de la presse voilà, de
caniveau.
Ouais, bah, oui, exactement.
Voilà, personnellement, j'ai reçu le dossier. Franchement, c'est sordide, il n'y a vraiment rien d'intéressant. Sauf que toute cette histoire... quoi qu'on en pense, elle risque bien de coûter sa place au patron historique de cette équipe Red Bull, parce que autour, il y a des gens qui ont aussi intérêt à essayer de faire tomber Christian Horner et avec lui, éventuellement, cette équipe Red Bull. Un des derniers rebondissements en date, c'est la réaction de Jos Verstappen, donc le père de Max Verstappen, qui s'est exprimé après l'arrivée du Grand Prix de Bahreïn et qui explique qu'il va y avoir de la tension dans l'équipe tant qu'il restera en place. Équipe qui risque de se déchirer, ça ne peut pas continuer comme ça, dit-il. Bon, en gros, il appelle clairement au départ de Christian Horner.
C'est bizarre d'ailleurs, il s'est exprimé auprès d'un tabloïd.
Oui.
Ce qui ne fait pas très sérieux, c'est assez inhabituel dans le monde de la Formule 1.
Que la presse spécialisée, c'est-à-dire nos confrères qui traitent des sports mécaniques, ne s'intéressent eux non plus pas trop à ces histoires.
Exactement. En général, ce n'est pas dans la culture de la Formule 1 et ça honore.
Et c'est plutôt à leur honneur, voilà, exactement.
La profession, tout à fait, on n'a pas l'habitude de ça, on n'a pas envie de tomber là-dedans, clairement, dans ce cirque-là. Mais la question, c'est... peser vraiment les fonctions, le rôle, l'envergure, le poids tout simplement de Christian Horner dans cette organisation. Et si on l'enlève, on met qui à la place? Mais il faut voir ce que représente Christian Horner. C'est lui qui a recruté quasiment tout le monde au départ de l'écurie. C'est Helmut Marko qui a eu le feu vert de la part de Dietrich Mateschitz à l'époque pour racheter l'écurie Jaguar. Son premier gros coup, il l'a flairé, c'est qu'il a senti que Adrian Newey n'était pas très heureux chez McLaren. Il l'a recruté. Tout de suite, ça a fonctionné. Et Christian Horner, déjà, c'est un ancien pilote. Donc, c'est quelqu'un qui comprend ce qui se passe dans une écurie, qui comprend ce qu'il y a dans la tête des pilotes. C'est un ancien pilote de Formule 2.
Qui est devenu responsable d'équipe très jeune, en fait.
Tout à fait, exactement. Donc, tout ça, ça compte. Et puis, quand Adrian Newey est arrivé, il a constitué avec lui un staff qui a duré pendant 15 ans.
Non,
donc, il y avait de la stabilité tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont pris les bonnes personnes, ils les ont mises aux bonnes places. Et on a vu ce que ça a donné. Et puis, Christian Horner, c'est quelqu'un aussi qui est très fort pour aller chercher des sponsors, pour trouver des solutions. Dernièrement, Honda a annoncé son retrait de la Formule 1, personne ne s'est démonté. Ils se sont dit, c'est bon, on va avoir le budget. C'est lui qui est allé chercher le budget auprès du big boss de Red Bull, qui avait dit, on ne sera jamais constructeur à part entière, on ne fera jamais de moteur. Helmut Marko disait, ça coûtera trop cher. Eh bien, c'est Horner qui a convaincu d'aller dans cette voie-là et qui a commencé une campagne de recrutement absolument agressive pour avoir un moteur à partir de 2026. Et c'est lui qui a fait tout ça. Il a même publié une liste de 15 noms de notoriété pris principalement à Mercedes pour montrer de quoi il était capable. Donc, c'est quelqu'un qui a toutes ses connexions dans le paddock, évidemment, mais tu mets quelqu'un d'autre à la place, un personnage lambda, ça produira pas les mêmes résultats. C'est pour ça, je dirais, qu'il faut le garder. Et puis, il avait pris aussi une petite envergure un petit peu...
Ah oui, je sais d'où tu viens.
Voilà. Ouais. Dans Netflix, ça veut dire que il était vraiment le boss qui avait multicarte à 360 degrés.
Pour Netflix, c'était le client idéal. Il s'exprime bien, il a une belle gueule. Plutôt, oui. Christian Horner, c'est un communicant hors pair. Madame Christian Horner, c'est une ancienne Spice Girl, donc forcément, ça passe très très bien aussi à l'écran. Ça a peut-être un peu moins bien passé entre monsieur et madame avec cette histoire.
Et puis, ce qu'il a fait
aussi...
Mais
c'est quelqu'un d'entre gens, c'est un politique, attention, c'est loin d'être un ange.
Quand tu dis politique, le mot est important. Quand Dietrich Mateschitz pensait donc à ses derniers jours, à sa fin de vie, lui, ce qu'il avait prévu, c'est en fait de vendre l'écurie à Porsche. Voilà. C'est pour ça que Porsche est arrivé assez sûr de son fait en Formule 1 en se disant on va prendre le contrôle de Red Bull, on va racheter l'écurie et puis la renommer Porsche. Il y a quelqu'un comme Christian Horner qui s'est dit non, ça ne va pas se passer comme ça et on va rester notre structure, on va continuer d'être géré en Angleterre. point barre. Donc c'est lui qui tient tout ça. Vraiment, c'est quelqu'un qui est important dans l'avenir de l'écurie.
Alors, justement, on évoquait le fait qui pourrait assumer ses fonctions. On a parlé de David Coulthard. Moi, honnêtement, ça m'épate un petit peu. Helmut Marko, quand même, il est quand même maintenant assez âgé. C'est un job, il faut bien comprendre, hein. Patron d'équipe. C'est un job 7 jours sur 7, H24, il n'y a pas de congé, le téléphone il sonne tout le temps, n'est pas Toto Wolff qui veut, n'est pas Jean Todt qui veut, parce que la réussite d'un Christian Horner, ouais, elle est à comparer à ces deux hommes-là. Tu as une idée, toi? Je pense que oui.
Je t'ai parlé de Netflix, tu veux que j'en venir?
Non.
Gunther, notre Gunther. Ça, ce serait okay, le combo d'accord. Parfait, ça serait fantastique. Franchement, j'en rêve. Il est autrichien, autrichien et italien. Non, bon, trêve de plaisanterie, je pense que ça viendra d'une promotion en interne, c'est encore à voir. Hein. Horner n'est pas parti, il tient pour l'instant contre le clan Verstappen. Ouais, apparemment,
un ancien...
c'est vraiment eux qui font le forcing pour le mettre dehors.
Un membre de la communauté des fous du volant, Pierre Vacher.
Ah non, mais ça, c'est, il faut prendre le contrôle de l'équipe. C'est, alors, c'est beaucoup de, comme tu l'as dit, d'administration, de politique. Faut y passer beaucoup de temps. Ouais. Et Pierre Vacher,
je le sens pas très politique.
Voilà,
ouais.
Il est surtout un technicien fabuleux et c'est ce qu'il a envie de rester. Ce que nous aussi, on a envie qu'il reste parce qu'il a des idées absolument fabuleuses. Donc, c'est à voir, mais c'est facile de dire on le vire, mais tu mets qui à la place.
Et je pense que c'est pour ça que, dans un premier temps, même du côté de chez Red Bull, on s'est dit, bon, bah, il va partir. Et puis, d'un seul coup, oui, mais alors attendez, parce que là, vous êtes bien gentil, mais. Et après lui, comment ça
et
se passe?
Et puis, surtout qu'il faut résister aussi aux turbulences. Il y a deux gros sponsors qui avancent leur bille, Ford et Oracle, pour ne pas les nommer, et qui disent il faut y mettre bon ordre dans tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont sponsors, mais ils donnent leur avis. À mon sens, c'est une ingérence. Ça ajoute de la confusion à la confusion. Là aussi, c'est pareil, il faut résister à ça. Faut remettre le cap là-dessus. Alors, globalement, les adversaires de Horner qui se sont exprimés publiquement, qui ont dit on ne peut pas en rester là.
En l'occurrence, Zach Brown et Toto
Wolff.
Voilà,
ont vite réalisé qu'en fait, juridiquement, il n'y avait pas d'autre possibilité que de venir à bout de cette solution par une affaire classée. Alors, après, c'est à Red Bull de voir en interne ce qui se passe. Je dirais juste une chose, la FIA est capable d'aller regarder dans les usines si le règlement technique est respecté, si les usines ferment pendant les périodes de trêve. Ils mettent leur nez maintenant aussi jusqu'au dernier euro dans les comptes pour voir si le règlement financier est respecté. Il y a une sorte de charte éthique. Hein. Helmut Marko s'est fait reprendre de volée quand il a parlé des origines, mexicaines, de Sergio Pérez. Et on lui a dit, la prochaine fois, tu dégages, tu sors, c'est terminé. Et là, si des faits qui sont reprochés à Christian Horner se déroulent sur un circuit, je pense que là, la FIA s'en empare en disant c'est pas éthique, c'est pas dans nos codes et la porte de sortie, elle est par là. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que la FIA pourrait aussi dire, eh bien, on a finalement un droit de regard aussi dans le fonctionnement de votre usine, ce qui s'y passe, on veut que ce soit éthique aussi et ça sera un message fort à envoyer. Mais juridiquement, il n'y a pas l'arsenal et est-ce que la FIA peut se substituer à la justice jusque-là?
C'est pas trop le sentiment qu'a donné là ces dernières heures Mohamed Ben Soulayem, le patron de la FIA, qui était dans la salle de restaurant à la table d'à côté de celle de Toto Wolff. Et figure-toi,
c'était vendredi soir.
Vendredi soir, à côté de Toto Wolff, Jos Verstappen, le père de Max Verstappen, et Raymond Vermeulen. Parce que là, maintenant, ça y est, c'est parti. Hein, les grandes manœuvres sont lancées.
Vermeulen, qui est l'agent.
L'agent de Max Verstappen. Et Toto Wolff, qui vient de perdre il y a quelques semaines Lewis Hamilton. Et qui se dit, on a parlé la semaine dernière de la perte d'influence dans son équipe de Toto Wolff. Imaginez le gain qu'il pourrait tirer
et qui a dit...
en se présentant devant Mercedes et en disant, voilà le contrat de Max Verstappen pour la saison prochaine chez Mercedes.
Et Wolff a dit, rien n'est impossible.
Non, non, bah oui. Mais, ah. Et Jos Verstappen lui a plutôt donné raison hein, dans ses déclarations. Soit dit en passant, j'ai appris juste avant de démarrer l'enregistrement de ce podcast que Jos Verstappen serait persona non grata dans l'hospitalité de chez Red Bull. À mon avis, on ne verra pas Papa Verstappen en Arabie Saoudite le week-end prochain.
On verra si c'est une déclaration de guerre, mais je pense que là, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder le vase.
C'est clair. Parce que, en fait, Christian Horner, il se retrouve là maintenant avec un nombre de cibles dans le dos qui est incommensurable. Alors, on a parlé de Toto Wolff, mais c'est aussi dans l'intérêt du clan de Max Verstappen d'essayer de profiter un peu de la situation pour faire monter les enchères. Parce que si ça explose en vol, il peut éventuellement soit essayer de gagner un peu plus, soit partir dans une autre équipe. C'est une occasion pour de très très nombreux pilotes, et donc avec leurs agents aussi, qui sont intéressés par chaque signature de contrat, de récupérer éventuellement un volant laissé libre par Max Verstappen qui partirait de chez Red Bull. Et c'est une occasion en or pour la Formule 1 de faire diversion, de faire du storytelling au départ d'une saison 2024 qui s'annonce d'un ennui absolument mortel.
Je serai un petit peu plus optimiste que toi quand même, Gilles. C'est vrai qu'il y a une seule victoire qui a échappé à Red Bull l'an dernier. On n'est pas parti sur ces bases-là, je pense. Cette année, hein, vraiment, on sera peut-être plus en mode 2022 qui était un peu moins pire, mais on verra. Et pour finir sur cette histoire Horner contre Verstappen, Horner, tu te souviens aussi, c'est lui qui avait dit après le Grand Prix de Monaco 2022, remporté par Perez, au grand dam de Jos Verstappen qui dénonçait la stratégie pas assez avantageuse de Red Bull pour son fils, eh bien Horner avait dit, ici, c'est pas le Max Verstappen Racing. Voilà, donc ça fait déjà un moment de temps que ça dure, et ça c'est juste maintenant tout ce qui ressort, toute cette animosité, et ces gens qui se comprenaient parce qu'ils gagnaient, ils vont encore gagner cette année, mais ça va peut-être exploser quand même. C'est ça qui est incroyable.
Voilà, c'est la question qui reste en suspens pour les prochaines semaines, parce que si Christian Horner part avec lui, qui part ? Il y a quand même des gens qui vont peut-être rester loyaux envers le patron historique, ceux qui l'ont fait venir. Tu as parlé d'Adrian Newey. Adrian Newey pourrait très bien en profiter pour tirer sa révérence à la fin de la saison. On a évoqué Pierre Vacher. Est-ce que Pierre Vacher suivrait Christian Horner? On a vraiment le sentiment que Christian Horner... Je serais très surpris s'il partait seul. On sait que c'est un monde impitoyable, la Formule 1, on est en train de le voir encore une fois. Mais clairement, c'est peut-être tout l'édifice Red Bull Racing qui pourrait s'effondrer si Christian Horner partait.
En 2019, à la fin de la collaboration avec Renault, quand Red Bull s'était tourné vers le Honda et avait réussi à re-signer Max Verstappen, Helmut Marko a dit « il faut que ça marche parce que si ça ne marche pas, Max Verstappen s'en va et nous, on ferme ». Il n'y a pas d'autre mot.
On en est là, et pour tout vous dire, on attend de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, savoir si Christian Horner va rester en place, ce qui va devenir de cette équipe Red Bull, et finalement de la physionomie et du plateau, non seulement de la saison 2024, qui ne devrait pas bouger malgré tout, mais qui peut avoir de grosses conséquences aussi sur 2025. Alors on le disait à l'autre bout du spectre, malheureusement ça bouge aussi et c'est une tempête qui n'est pas comparable parce qu'il n'y a pas de scandale, on va dire, de relations humaines au sein de l'équipe Alpine. Mais alors quel naufrage pour ce Grand Prix de Bahreïn, 17e et 18e place pour Esteban Ocon et Pierre Gasly qui s'attendaient à vivre un purgatoire. Ils ont été servis. Cette Alpine A524, on avait compris qu'elle était mal née après les essais de pré-saison. On en a eu la confirmation et on a donc appris il y a quelques minutes ce qu'on pressentait, c'est-à-dire la démission de Matt Harman, le directeur technique de chez Alpine, accompagné de celle de Dirk De Beer, qui était responsable de l'aéro. On vient de recevoir le communiqué de presse de chez Alpine qui va nommer trois personnes pour essayer de relancer cette équipe. Alors Joe Burnell qui va devenir directeur technique, David Weather qui lui va être en charge, directeur technique aussi mais de l'aérodynamique, et Ciaran Palmbeam qui sera lui au niveau de la performance.
Oui, les deux autres, qui était responsable des ingénieurs, qui a un
gros
passé
chez Red Bull. Tu confirmes que les deux autres, t'en as jamais entendu parler?
Alors franchement, j'avais envie de, je souriais pendant que tu égrenais ces noms, mais effectivement, je me dis, mais d'où sortent-ils? Alors, ils sont certainement bien référencés dans l'usine, mais on sent que là maintenant.
On fait un peu avec les moyens du bord.
Ouais, c'est que on va chercher le troisième, le quatrième, etc. Ça me fait penser un petit peu au nom au début de chez Lotus, où on avait à la période Lotus Nick Chester, qui était un numéro 3 de la technique, qui n'était pas configuré, qui n'avait pas les armes pour dessiner une voiture pointue comme ça. Le plus grave dans cette histoire, quand même, c'est que là, on fait avec les moyens du bord. Ça ressemble à une improvisation fantastique. Et la voiture 2024, si elle est ratée, ça voudra dire aussi que la 2025 est ratée. C'est un nouveau concept. On nous a dit on a tout refait. Bon, ben ça marche pas. C'est un peu ça le véritable ennui. Et dans toute cette litanie des restructurations, le paddock, le milieu a quand même perdu confiance par rapport à
au projet
de chez Alpine, que Ricciardo avait soulevé en disant bon bah je ne crois pas au projet, je m'en vais.
Et ben alors justement, on va revenir sur cette éternelle restructuration du côté de chez Alpine, parce qu'on a l'impression que ça n'en termine jamais. On va remonter pas très très loin, et pourtant on a l'impression que c'est déjà il y a des décennies, fin 2020, quand Daniel Ricciardo, je reprends la référence que tu évoquais, Daniel Ricciardo qui prend la décision de quitter Renault alors qu'on avait beaucoup misé sur lui.
Même pas, c'est mai 2020 en plein confinement.
Oui,
Sainz commence à bouger, etc., lui dit je m'en vais. Et après, il pousse le premier domino en profitant du transfert de Sainz qui va chez Ferrari. Donc lui, il se jette dans la McLaren. Et ça veut dire qu'avant l'exécution de la deuxième année de son contrat, il en a déjà vu assez en 2019 et il dit je n'y crois pas, ça ne marchera pas.
Donc, je reprends.
Excuse-moi, Gilles.
En 2020, Daniel Ricciardo décide de quitter le projet Renault pour rejoindre McLaren. Fin 2020, donc, Renault termine cinquième au classement des constructeurs. On va basculer ensuite sous l'appellation Alpine. Janvier 2021, Cyril Abitbol quitte Renault, remplacé à la direction donc, générale de Alpine, désormais par Laurent Rossi. Il y a cette première saison qui se déroule, fin 2021. Alpine, avec Fernando Alonso, qui a donc remplacé Daniel Ricciardo, et avec Esteban Ocon, finit cinquième au classement des constructeurs avec une victoire.
Oui.
Et c'était le fait d'armes de cette première saison sous l'appellation Alpine. Quelques semaines plus tard, janvier 2022, départ de Marcin Butkowski, le directeur exécutif, de Alain Prost, conseiller spécial de chez Alpine, arrivé de Otmar Szafnauer. En août 2022, donc on est dans le courant de la saison 2022. On est en pleine silly season, on se demande si Alpine va conserver Alonso. Alonso prend les devants et annonce son départ de chez Alpine, direction Aston Martin. Bon, il y a le joker Piastri qui entre en jeu et Piastri dit non, merci. En gros, moi non plus, je ne crois pas au projet. Je préfère aller chez McLaren.
Enfin, là, en l'occurrence, c'est Alpine qui ne croyait pas en lui. Mais il aura retourné aussi le compliment.
Oui, c'est ça.
D'une façon assez logique, on sait ce que c'est devenu depuis.
Alors, là, on se dit, il y a quand même un vrai souci pour que quand même on en soit arrivé à ne pas sécuriser le contrat d'un pilote de réserve aussi prometteur qu'Oscar Piastri. À la fin de cette saison 2022, Alpine termine quatrième au classement des constructeurs. Finalement, c'est Pierre Gasly qui est annoncé à la place de Fernando Alonso. On attaque 2023, juillet 2023. Laurent Rossi est remplacé par Philippe Krief. Otmar Szafnauer et Alain Perman, donc le directeur sportif, sont démis de leur fonction après le Grand Prix de Belgique. Hein, on se souvient de cette scène.
C'est annoncé le premier jour du Grand Prix de Belgique, ce qui est un désastre absolu en termes de communication. Moi, j'aurais attendu 3-4 jours. Il y avait la trêve juste après. Tout le monde est parti en vacances. Tu fais ça, t'envoies un communiqué. Ça fait des remous, mais on n'en parle pas autant et ça ne fait pas un bad buzz comme ça fait là. Et là, encore une fois, la conclusion, c'est personne ne veut aller après ça chez Alpine.
Exactement. Donc, c'est Bruno Famin qui remplace sur le champ Otmar Szafnauer. Pat Fry, lui, quittera officiellement Alpine à la fin de la saison. Alpine qui termine cette saison 2023 au sixième rang du classement des constructeurs.
Le directeur sportif donc s'en va, Alain Permain, c'est Julian Roos qui arrive.
Et on termine, mars 2024, voilà. C'est-à-dire aujourd'hui, départ de Matt Harman, directeur technique, et de Dirk De Beer, responsable de l'aéro.
Oui.
Ça donne le tournis, ça donne le tournis.
Alors Dirk De Beer, qui est un historique quand même de chez Ferrari, un ancien chef aéro, et il était chef aéro en poste à Enstone, donc depuis la fin 2019. Donc c'est des gens quand même qui ont un CV assez conséquent. En revanche, Matt Harman, c'était son premier projet en Formule 1 en 2022, faire une voiture. Et c'est lui qui avait dit, j'ai besoin de temps, c'est un petit peu ça le leitmotiv chez Alpine, on a besoin de temps pour restructurer, pour s'équiper, pour recruter. Mais alors là, ça va être encore plus difficile. Et moi, je me suis dit, mais en fait, Renault a racheté Lotus en 2016 sur les friches vraiment techniques de l'écurie Lotus qui n'investissait plus en rien à Enstone. Et je me suis dit, ça fait quand même 8 ans que ça dure. Mais 8 ans dans le déroulement, dans la vie d'un top team, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce qu'ont fait les autres en 8 ans ?
Ah bah oui.
Après un début de championnat du monde.
Ils ont gagné.
Eh bien, Gilles, j'ai regardé ça tranquillement. Début du championnat du monde, 1950, Ferrari est au départ. Qu'est-ce qui se passe 8 ans après ? Ils sont champions du monde pilote avec Mike Hawthorn. Okay. McLaren arrive en Formule 1 en 66. En 74, 8 ans après, ils sont champions du monde constructeurs.
Okay.
Voilà. Williams débute en Formule 1 son nom propre en 1978. En 86, ils sont champions constructeurs.
Ouais.
Voilà. Red Bull, c'est le plus facile. Ils arrivent en Formule 1 en Grand Prix en 2005. 2013, c'est le titre pilote.
Le quatrième constructeur.
Alors, eux, ça fait un moment que ça tourne déjà à plein régime. Voilà, donc ils n'ont pas attendu 8 ans.
Ouais.
Et puis Mercedes qui revient vraiment en Formule 1 en 2010. Eh bien, en 2018, c'est pilote et constructeur. Voilà, tu vois ce que ça donne. Tu vois ce qu'on est capable de faire en 8 ans ou même moins en Formule 1. Normalement, on doit pouvoir mettre en place une équipe avec des objectifs clairs. Avec un financement, évidemment, parce qu'autrement, il ne faut pas y aller comme ça à la fleur au fusil. Et moi, je me dis quelque part qu'il manque un vrai patron, un Flavio Briatore. Alors, l'écurie aujourd'hui de Enstone, c'est la genèse, en fait. Il faut remonter, en fait, à Benetton, même à Tolman, mais Benetton, qui s'était engagé en 1986, en 1994, ils sont champions, pilotes et constructeurs, avec quelqu'un comme Flavio Briatore, qui a repris l'écurie à Enstone en 2001, plus précisément en 2002, ben en 2005, ils sont champions du monde.
Après, donc, après Stéphane,
ça peut aller vite.
Dans toutes ces équipes, cette structure Alpine, elle a la particularité d'avoir une base à Enstone, une autre base à Viry-Châtillon pour faire les moteurs, donc en France, pour faire les châssis du côté de la Grande-Bretagne. Et c'est peut-être ce modèle qui ne peut plus fonctionner aujourd'hui, encore plus avec le Brexit. Je pense que ça a dû encore compliquer les choses. Parce que là, on vous a parlé que finalement des trois responsables techniques. Mais après, donc, on se retrouve avec des nominations aussi du côté de Viry-Châtillon, avec Éric Maignan, directeur technique de l'unité de puissance, qui va continuer à travailler sur le projet, avec Audrey Vastou, avec également John Woods. Enfin, il faut restructurer à Viry-Châtillon, à Enstone. Enfin, c'est un casse-tête pas possible. Alors, je me demande en fait si ce modèle, il n'a pas vécu et que ça n'est plus possible en fait de travailler avec deux bases qui ne sont plus... Là, c'est quasiment plus sur le même continent.
Ça, c'est une... Alors, la vraie question quand même, parce que les gens sont basés principalement en Angleterre quand ils travaillent sur le châssis, donc... Là, c'est là-bas que ça se passe. Et moi, ce qui m'étonne énormément, c'est qu'il y a quand même des opportunités extraordinaires sur le marché. Je te disais, Adrian Newey, Christian Horner, quand ils ont mis en place l'équipe technique en 2005, en fait, ils ont défini un groupe d'à peu près une cinquantaine de personnes. Et leur obsession, c'était les re-signer, leur faire signer des contrats de 3, 4, 5 ans pour garder ce noyau en place, et ça a duré à peu près une quinzaine d'années. Et on voit ce que ça a donné. Et là, en fait, il y a des gens dans l'entourage proche d'Adrian Newey qui se sont un petit peu lassés, qui ont voulu s'émanciper, qui étaient des numéros 2 et qui se sont dit, mais moi aussi, j'ai l'envergure d'un directeur technique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Dan Fallows, le chef aéro historique de Red Bull, le bras droit d'Adrian Newey, eh bien, il est parti chez Aston Martin. Est-ce que c'était dur du côté d'Alpine de recruter quelqu'un comme ça et lui donner les clés de la direction technique ? Bon, voilà. plutôt que d'en arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Alors c'est certainement des gens de qualité, mais pour l'instant on les connaît pas, ils sont pas référencés. De la même façon, Rob Marshall, qui était le numéro 2 d'Adrian Newey, mais à l'ingénierie, il y a deux adjoints qui comptent en Formule 1 pour un directeur technique, c'est l'aéro et c'est toute la partie mécanique. Eh bien Rob Marshall, c'est la partie mécanique, eh bien il a rejoint McLaren. Et puis on peut citer comme ça David Sanchez, chef designer chez Ferrari, qui va aussi chez McLaren. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas la main chez les Bleus sur des gens comme ça?
Donc c'est toute la question qui se pose. Alors on va quand même mettre en perspective un tout petit peu les choses. C'est que alors évidemment ça va être très très compliqué, hein, au moins ce début de saison chez Alpine. Pour autant, les Alpines, elles étaient à 8 dixièmes en qualification de la Red Bull de Max Verstappen. C'est pas des années-lumière, 8 dixièmes. Là, il y a concordance de deux phénomènes. Une voiture qui est mal née et un peloton qui est incroyablement serré.
Oui,
mais... Et qui fait que là, ça explose un petit peu à la tête des gens de chez Alpine.
C'est
régressif. Hein. Ça, c'est sûr. 2022, on peut pas nier.
2023, 2024, on est
on sur peut pas nier. On et... peut pas nier une régression, alors, ça serait malhonnête. Mais ouais. En même temps, il faut quand même rappeler qu'on n'est pas à 3 secondes des chronos. On est juste à 8 dixièmes à Bahreïn.
Ça fait un petit peu mal quand même de se retrouver derrière des Williams, derrière des Sauber. Même si ces écuries sont parfaitement honorables, on s'entend bien. Voilà. Moi, je pense que c'est un coup de moins bien. Ils ont insisté sur le fait qu'il faisait frais à Bahreïn, donc ça n'a pas joué en leur faveur. Ils vont peut-être revenir dans un top 12, 15 dans un premier temps, ce qui serait déjà bien parce qu'ils ont déjà du mal à passer en Q2. Alors, moi, j'en reviens simplement par rapport à ce qu'on a dit, le recrutement, etc., à une petite phrase de Esteban Ocon qu'il avait prononcée lors de la remise des prix à la Fédération française de sport automobile en décembre. Il avait dit on n'a pas bien exploité le potentiel de la voiture en 2023, on doit faire mieux. Il avait dit en tous les cas, on a les moyens. Technique, tout est en place pour faire du bon travail. Et il avait dit d'une façon que la performance n'arrivait pas, c'était plutôt une question de personne.
Ah, ouais, d'accord.
C'était une question de personne. Peut-être que les bonnes personnes n'étaient pas aux bonnes places ou qu'on n'avait pas les gens suffisamment solides pour aller plus loin, pour aller plus haut. Aujourd'hui, le problème aussi qui se pose par rapport au départ de Lewis Hamilton chez Ferrari, ça libère une place chez Mercedes.
J'allais y venir.
Un garçon comme Esteban Ocon est sous contrat avec Toto Wolff, il est prêté d'une façon ou d'une autre. On peut changer les mots, mais c'est, dans les faits, c'est ça aujourd'hui. Esteban Ocon, il a un contrat avec Alpine, mais il est géré par Toto Wolff. Il est surtout en fin de contrat, fin 2024. Et puis, il y a une dizaine de jours, Pierre Gasly a fait savoir que son agent va prendre contact avec Toto Wolff pour lui présenter sa candidature aussi pour remplacer Lewis Hamilton. Donc,
les pilotes eux-mêmes croient-ils encore au projet? C'est toute la question. Et on a envie de dire, poser la question, c'est presque déjà répondre.
Sur la base du redressement opéré par McLaren l'année dernière, on peut y croire. Et c'est une question de travail. Là, maintenant, il faut se retrousser les manches. Il n'y a pas d'autre mot. Il faut faire les bons diagnostics et les bonnes solutions arriveront. Simplement, ça va prendre du temps, ça va être assez infernal. Et pendant ce temps-là, la silly season va avancer. Et puis, Bruno Fama disait, nos pilotes sont sous contrat jusqu'en 2024, on va regarder le marché. Un petit peu comme s'il avait la main et qu'il pouvait faire ce qu'il veut. Mais je serais pressé de les signer tous les deux, ces garçons, parce qu'on ne sait pas où ils vont aller. Est-ce qu'on aura encore un plan B? Est-ce qu'on sera un petit peu coincé? Est-ce qu'on ira chercher un Alexander Albon chez Williams? Je ne sais pas ce qui va se passer, mais là, pour l'instant, l'écurie est moins attrayante qu'elle l'était il y a 12 mois ou il y a 24 mois.
Exactement. Donc, à venir incertain aussi du côté de chez Alpine, et on est impatient de voir les résultats au prochain Grand Prix en Arabie Saoudite pour essayer de retrouver un petit peu de bleu sur ces voitures qui en manquent cruellement. Le dernier point qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, eh bien, c'était la manche d'ouverture du championnat du monde d'endurance du côté du Qatar. Hein. C'était donc les 1812 km du Qatar, la première des 8 manches du championnat du monde d'endurance.
10 heures de course.
À peu près.
Ouais, la durée ressentie par le Grand Prix de Bahreïn, je
pense. Qui n'a pas eu lieu très très loin, mais non, vous n'êtes pas trompé.
Et c'était absolument passionnant. C'était prenant du début à la fin. Je vous conseille d'aller sur le player d'Eurosport. Si vous n'avez pas vu, ça se regarde, mais
et puis il y a eu de l'action du début jusqu'à la fin.
Tout à fait, on apprend plein de choses. Enfin, c'est absolument génial. Et on se dit vraiment qu'on est parti vraiment sur une période dorée. Il y a eu de l'action, et puis les Alpines nous ont fait plaisir aussi.
Alors, on va parler de tout ça. D'abord, le premier point qu'on va évoquer, c'est la réussite de Porsche, avec un triplé des Porsche. La voiture de André Lotterer, Kevin Estre, un Français, Lorenz Ventoure, qui s'est imposé. Il y a eu une deuxième Porsche à la deuxième place, et celle engagée par l'équipe Jota, où on retrouve notamment Norman Nato. Une troisième Porsche, une autre Porsche officielle, où on retrouve notamment celle de Fred Makowiecki sur le podium. On retrouve donc Porsche aux avant-postes en championnat du monde d'endurance. C'est de la première fois depuis 2017 que ce n'était pas arrivé, parce qu'on se souvient que Porsche s'était ensuite retiré du championnat.
Ça nous fait 4 LMDH dans le top 4.
Dans les 4 aux 4 premières places, avec la Cadillac qui a pris la 4e place au pied du podium.
Et un pilote français dans chaque équipage.
Oui.
On parlait de la formation des pilotes français qui sont là, vraiment. Ça fait plaisir, ça aussi. On en recevra de toute façon quelques-uns cette année dans les Fous du Volant
qui fait partie de l'équipage de la Cadillac en 4e
et qui
position.
Sera en alternance cette année, qui ne fera pas toutes les épreuves, mais qui fera Le Mans aussi. Ça, c'est le plus important. Et donc, Gilles, qu'est-ce que toi, tu t'en as retiré un petit peu de ce week-end ?
Déjà, premièrement, que Porsche, après une saison assez décevante l'année dernière pour le début de la 963, finalement, a déjà quand même bien rectifié le tir. C'était quand même très, très étonnant que Porsche ne soit pas complètement aux avant-postes. Quand Porsche fait une voiture d'endurance, normalement, tout de suite, ça claque. L'année dernière, ça n'avait pas été le cas. Là, cette année, clairement, ils ont bien rectifié le tir parce qu'ils avaient déjà gagné aux 24 heures de Daytona, qui ne fait pas partie du championnat du monde d'endurance, mais qui fait partie du championnat américain d'endurance, l'IMSA. Donc, ils avaient gagné les 24 heures de Daytona. Là, maintenant, ça gagne et ça fait même tripler sur... Puis alors, en qualification, ils étaient aussi ultra bien représentés parce qu'en plus, ils ont la force du nombre. Les Porsche. Donc là, on peut dire que chez Porsche, on a vraiment corrigé le tir et que cette voiture, maintenant, a montré les muscles et elle va devenir peut-être la favorite d'ailleurs pour le titre à la fois au championnat du monde et peut-être même pour les 24 heures du Mans, parce qu'on a eu le sentiment que dans tous les compartiments du jeu, que ce soit en qualification, que ce soit en termes d'usure des pneumatiques aussi, où ça joue énormément, les Porsche ont tout, en plus avec des équipes différentes. Il y a les Porsche officielles, il y a les deux Porsche de chez Jota. On a parlé de celle de Norman Nato, mais il y en a une autre quand même avec un certain Jenson Button à son volant. Il y en a une chez Proton, qui est une équipe qui est aussi très très expérimentée en endurance. Honnêtement, ça va être compliqué à gérer. Autant de Porsche bien menées, la concurrence va avoir fort à faire.
Ouais. Alors moi, globalement, j'ai trouvé cette course extrêmement intéressante avec 19 hypercars au départ. Un circuit assez sinueux quand même par rapport à ce qui se fait sur les autres standards, ce qui fait qu'il y avait tout le temps de l'action. Il fallait se faufiler dans le trafic. Et je vois là quelque chose d'un petit peu nouveau, une prime quand même aux pilotes qui savent sentir un peu comment se glisser dans le trafic. C'est quand même très important. Alors le circuit était un petit peu particulier, mais on a vu beaucoup de scènes comme ça où il fallait y aller franchement et ça, on ne gère plus, je dirais. On est sans arrêt dans un pilotage quand même assez agressif.
Ah bah il y a pas le choix, de toute façon. Bah, et d'ailleurs même la voiture de tête a failli se faire piéger. Il y a eu un contact et ça a failli leur coûter la victoire.
Et on a vu aussi un Jean Hegvern vraiment pousser devant la derrière la Porsche. Moi, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment de bon augure.
Je peux juste ajouter un petit truc. On a parlé des trois Porsche et de la Cadillac, donc trois LMDH. Il y a deux catégories chez les hypercars. Les LMH, c'est-à-dire, on va dire, les voitures qui sont vraiment faites
De A à Z
par les constructeurs. C'est le cas des Toyota, c'est le cas des Ferrari, c'est le cas des Peugeot.
Y compris les systèmes hybrides.
Exactement. Et puis, il y a les LMDH, donc pour les Porsche, pour les Cadillac.
Les voitures américaines, en fait.
Exactement. Qui, elles, utilisent
Des quatre châssis. L'un des quatre homologués.
Homologués par l'organisateur et des systèmes hybrides qui sont communs et qui n'agissent que sur les roues arrière. Il y a évidemment un système de BOP, de balance de performance entre chaque voiture et donc entre ces deux catégories. Là, on a peut-être quand même donner des armes en plus aux voitures de la catégorie LMDH. J'en veux pour preuve, je parlais de la discrétion et ça va nous permettre d'embrayer un petit peu sur les résultats des Toyota et des Ferrari qu'on n'a pas beaucoup vu pendant cette course. Hein. Si on redescend dans le classement, la première des Toyota, elle est à la sixième place. La première des Porsche, Ferrari est en septième position.
Il n'y avait qu'une Toyota en hyperpole. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à gérer pour eux. Ils ont découvert quelque chose d'un petit peu différent de la dernière manche du championnat 2023 qui était aussi à Bahreïn. On alourdit un petit peu les voitures.
C'est ce que j'allais dire, on les a enlevé un peu de puissance.
Voilà, exactement. Et ce qui fait qu'elles ont été un petit peu en retrait comme dans le paquet. Hein. C'est étrange de voir des Toyota se battre pour une 6e, 7e place et ne pas pouvoir s'extraire du peloton comme ça parce que c'était aussi difficile de dépasser dans les parties sinueuses. Et puis Ferrari a... n'a pas tellement réussi. Ils ont une pénalité sur la 50.
Oui, il y a une accrochage. Erreur bête. Ils ont franchi la ligne de la 51. À l'entrée des stands. Ils ont perdu l'ensemble de l'aileron arrière sur l'autre voiture. Et il n'y avait pas d'ensemble prêt dans les stands. Enfin, c'était assez étonnant comme ça.
Des erreurs comme ça, ça se paye cash maintenant. On n'est plus sur une course au long cours, même de 10 heures. Mais oui. Tu t'en remets pas.
C'est pas tant la longueur de la course qui pose problème désormais, c'est que avant, quand il y avait 3-4 voitures dans la catégorie,
il suffisait
de remonter un peu et vous étiez sur le podium. Là, il y en a 19. Donc, si vous faites une erreur, vous êtes au fin fond du classement et vous ne relevez jamais la tête. N'empêche que il va falloir quand même surveiller. Là, on a parlé de la balance des performances. Sans doute qu'on est allé un petit peu loin sur les Toyota, sur les Ferrari,
dans l'autre sens, avec les Peugeot. Aussi.
Alors attends. Oui. On termine sur Toyota et Ferrari parce que clairement il y a un traumatisme chez Toyota d'avoir perdu les 24 heures du Mans l'année dernière. On a beaucoup de mal à s'en remettre et la seule façon d'effacer cet affront, c'est de gagner au mois de juin prochain. Donc Toyota ne pense qu'à une seule chose, c'est de gagner les 24 heures du Mans 2024 avec 9 constructeurs au départ. L'édition du millénaire des 24 heures du Mans. Et Ferrari, à l'inverse, n'avait remporté qu'une seule course l'année dernière. C'était celle qu'ils voulaient remporter. Ils n'ont retenu que ça. Ils ont gagné les 24 heures du Mans. Donc ce circuit de Bahreïn, qui n'a pas grand-chose à voir avec le circuit de la Sarthe, au final, que nous dit-il en termes de performance? C'est quand même difficile à lire. Est-ce qu'on est resté discret du côté de chez Toyota et chez Ferrari? Est-ce que, de toute façon, on ne travaille pas pour être performant ni à Bahreïn, ni à Imola, ni à Spa, mais uniquement pour ces deux constructeurs, plus que pour tous les autres dans la Sarthe? Je pense qu'il y a un petit peu de tout ça quand même. Donc attention à surtout pas enterrer les Toyota, surtout pas enterrer les Ferrari.
Ce qui m'étonne quand même, c'est que Toyota garde sa politique de deux voitures. Quand tu vois l'Armada Porsche, même Ferrari est monté en gamme avec une troisième 499P. Donc on verra un peu jusqu'à quel point ils sont capables de s'organiser pour aller chercher la victoire. Parce que là, si c'est compliqué, il faudra ajouter une chance supplémentaire. Et ils l'ont déjà dit, ça induit beaucoup de changements en termes d'organisation, de logistique, etc. Ils ne sont pas tellement prêts à ça. Ça fait des années qu'ils fonctionnent avec deux voitures. Mais il faudra peut-être y passer aussi, monter en gamme, parce que
surtout
là, maintenant, c'est devenu...
On a vu de manière quasiment récurrente ces dernières années qu'on perdait régulièrement au moins une voiture sur un coup du sort. Ouais. Totalement improbable. L'année dernière, aux 24 heures du Mans, la Toyota qui se fait éliminer, elle se fait percuter par l'arrière en rentrant dans une zone de ralentissement, une slow zone. C'est absolument incontrôlable. Vous pouvez dire au pilote, roulez doucement, faites attention. Ouais, mais quand le gars qui arrive derrière, il ne s'attend pas à ce que ça freine et il vous empile, c'est mort. Donc oui, il y a un vrai risque pour Toyota sur cette sous-représentation. Risque assumé, manifestement.
Oui, là, c'est la politique est définie pour 2024, point. Mais là, quand on voit ce que c'est devenu vraiment, et puis il y a encore des constructeurs nouveaux en 2025, donc ça va devenir de plus en plus compliqué.
Déjà avec ceux de 2024.
Ah oui, bah là, de toute façon.
Ils vont s'amuser. Alors, On parle de Peugeot, quand même, qui a fait la course en tête à un moment, et qui n'a même pas, a pas été récompensé quand même parce qu'ils ont fini par abandonner. Alors, ils ont été, enfin, ils ont eu un problème de ravitaillement et ils ont fini par tomber en panne d'essence juste à l'arrivée. Et comme on n'a pas pu ramener la voiture jusqu'au parc fermé, la voiture a été disqualifiée.
Ouais.
Donc, elle ne figure même pas sur la liste des voitures à l'arrivée. C'était la dernière course de la 9X8. Sans aileron arrière. Alors là aussi, faut prendre un petit peu des pincettes avec les performances, parce que la voiture, elle avait été là pour le coup un petit peu favorisée par
la
Bob.
Elle était au poids minimum.
Au poids minimum.
1030 kilos.
Et à la puissance la plus élevée disponible.
À rapprocher des 1089 kilos de la Toyota, ça quand même à compter. Et puis c'était la voiture la plus puissante. J'ai noté 520 kilowatts. Et puis aussi un système hybride qui se déclenche à partir de 150 km/h contre 190 pour toutes les autres voitures de la catégorie LMH. Ça veut dire quand même que sur un circuit comme ça, où tu as des relances en permanence, freinage, accélération, etc., ça, ce critère-là était un vrai avantage. Il sera peut-être moins au Mans, mais ils avaient tout pour eux. Ils avaient une sorte de clause du constructeur le plus avantagé là-dessus,
et
les remettre dans le jeu.
Bah oui, et puis c'est une façon de se dédouaner un peu du WEC qui avait fait quand même un vilain tour, on le rappelle, à Peugeot, hein, en promettant des avantages à la monte pneumatique choisie par Peugeot, hein, qui utilisait des pneus avant et arrière identiques. Et puis finalement, il y a eu une modification du règlement et Peugeot s'est retrouvé complètement coincé. On attend avec impatience maintenant ce que va donner cette 9X8 nouvelle mouture, la .2 peut-être, avec un aileron à l'arrière. Des choses qui vont changer, hein. On n'aura plus les mêmes pneus à l'avant, la dimension de roue à l'avant et à l'arrière. Ça sera pour la prochaine course à Imola.
Et cet aileron ne sera pas trop d'ailleurs sur ce circuit aussi qui tourne pas mal.
Oui, qui tourne pas mal. Oui, c'est là qu'on va voir.
C'est un peu bizarre, hein, d'ailleurs. Bon, Imola pour du WEC, je trouve que c'est un circuit un petit peu... Enfin, je ne sais pas s'il est bien configuré. On verra, mais en tous les cas, il y a de la passion en Italie.
On ira à Spa
cours.
Avant d'aller au
voilà,
Mans.
Voilà, exactement. Pour moi,
Spa, c'est toujours
Spa,
voilà,
c'est
la préparation.
C'est le Mans, c'est...
Pour le moment.
Des circuits comme ça qui paraissent plus configurés. Bon. Et puis, je l'ai dit, Alpine nous a fait plaisir quand même parce que ce sont des débuts sérieux, vraiment, de voiture. L'objectif, c'était d'être à l'arrivée. Mission accomplie. C'est vraiment génial. Philippe Sino, le boss de l'équipe, a très bien dit les choses. C'était une course de 10 heures sur un nouveau circuit. Quand même, c'est pas rien. Nous avons rendu une copie propre, effectivement. Il a parlé d'exploit de rallier l'arrivée. C'est tout à fait ça. Il faut vraiment employer ces mots-là pour l'écurie avec deux voitures et une dans le top 10. Bon, mission accomplie. Il a dit que les fondations sont désormais posées. C'est tout à fait ça. Maintenant, il y a de quoi travailler avec un capital confiance. On a vu que...
Il y a du pilotes. Travail.
Voilà, c'est ça qui commençait. Mick Schumacher, qui a fait une petite sortie, une petite excursion.
J'ai pensé à toi, d'ailleurs.
Gravillonné.
Toi qui nous disais que c'était un pilote d'endurance né.
on verra, mais globalement, vraiment, si on devait mettre une note, ça serait peut-être un 13 sur 20 ou un 14 sur 20, parce que pour des débutants, dans ce contexte-là, dans cet environnement, c'est quand même assez important. Nicolas Lapierre rate l'hyperpole pour à peu près un dixième, donc c'est rien, c'est vraiment rien. Là, ça aurait été vraiment un exploit retentissant. Bon, mais tous les voyants sont au vert, on en est heureux, on vous a parlé d'un duel Peugeot-Alpine, c'est vrai que c'est ce qui va aussi nous animer. On va voir ça avec... on est impatients de voir ça. Mais globalement, sur la course, ce qu'il faut retenir, la 35, ils ont économisé un arrêt avec la gestion des pneumatiques. Donc déjà, tu vois, on commence à travailler. On nous avait parlé de deux stratégies différentes, alors que l'objectif, c'était quand même d'arriver, de finir la course, de voir les deux drapeaux à damier. Bon. Et puis, il y a eu des petits dégâts sur une touchette, sur la 36. Alors voilà, ça, c'est l'histoire de la course. Mais
c'était important.
L'important, voilà, l'essentiel
c'était
est pas
important
là.
Pour Alpine aussi de voir, en termes de, on parle souvent de corrélation. Alpine a fait beaucoup de simulations, a fait évidemment des essais en dynamique, mais c'était important de voir aussi à environnement égal sur la piste face aux autres si on dégradait plus, si on dégradait moins. J'ai quand même le sentiment qu'il y a encore des choses à peaufiner dans ce domaine de l'usure des pneumatiques. Bon, avec une voiture qui était plutôt un peu plus lourde que les autres.
C'était la plus lourde des LMDH, donc, aussi la plus puissante.
Ouais,
mais
voilà.
Voilà, donc ce qui rééquilibre un petit peu les choses. Il n'y avait pas de référence.
Le poids et la puissance, ça use les pneus. Donc il va falloir trouver des arbitrages dans ce domaine. Bon, c'est encourageant à voir pour la suite. La prochaine épreuve en ce qui concerne le championnat du monde d'endurance, ça sera les 6 heures d'Imola et ça sera le 21 avril. On retrouvera tout ce beau monde et donc une 9X8 qui devrait avoir cette fois un vrai aileron. Arrière, et on espère que les Ferrari conserveront, elles, leurs deux ailerons à l'arrière. Voilà Stéphane, je crois qu'on a à peu près tout dit sur à la fois ce Grand Prix d'ouverture en Formule 1, le contexte un petit peu spécial en ce moment dans les équipes Red Bull et Alpine, et puis en endurance. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast que vous pouvez suivre sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si vous avez apprécié, et à vous abonner aussi, comme ça, dès qu'on publiera le prochain épisode des Fous du Volant, eh bien, ça s'affichera sur votre tablette. On va remercier Marion Rabault qui va travailler maintenant à mettre tout cela en forme. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Stéphane.
Et d'ici là, on coupe le contact.